Le Comte de Porcelaine par Géode Ham. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Le Comte de Porcelaine. Il était une fois un royaume, un roi, une reine, des sujets, et tout cela n'aurait pas fait d'histoire si le roi et la reine n'avaient eu une fille. Je vais vous raconter cette histoire si vous voulez m'écouter. Dans le royaume de Portefeuille, le roi, portrait premier, et la reine, opportune, bons et sages souverains, gouvernaient avec intelligence et leurs sujets les aimaient beaucoup. La capitale du royaume de Portefeuille s'appelait Porridge. C'était une ville portuaire située sur la côte d'Échine, une région pittoresque et agréable. Le roi Portrait Ier et Sa Majesté Opportune habitaient le château-port, c'est-à-dire le palais dominant le port de la ville de Porridge. Leur bonté et leur sagesse étaient des modèles pour la population. Tous les sujets s'efforçaient de leur ressembler. Tous ? Non. Car il y avait deux exceptions, Portor et Porcelaine. Portor était le sorcier du pays. Il n'était donc pas étonnant qu'il refusât de prendre modèle sur les souverains de Portefeuille. Ainsi, son pelage était « Mais je m'aperçois que je ne vous ai pas décrit les portemines qui sont les habitants de Portefeuille. » Les portemines étaient ce que nous appelons maintenant des cochons. Mais en ce temps-là, les portemines, enfin les cochons, avait un beau, très beau pelage blanc, ni trop long, ni trop court, et si doux, si brillant, si clair, que même la soie des cocons paraissait rêche comparée à leurs poils. Les portemines aimaient avoir belle figure, ils ne manquaient aucune occasion de se laver, de se peigner, de se parfumer, afin d'avoir toujours meilleure mine. Enfin, les portemines portaient une queue qui n'était ni trop longue ni trop courte, et qui surtout n'était pas en tire-bouchon. Donc, disais-je, Portor le sorcier avait un pelage noir, mêlé cependant de quelques fils d'or. Car Portor avait une idée bien à lui de la beauté et de la coquetterie. Il avait horreur de l'eau et des parfums, ne se lavait jamais et raccommodait son pelage noir et sale avec de préférence du fil doré. Ainsi, il ne ressemblait en rien aux autres portemines qui le craignaient beaucoup et n'aimaient pas voir ses yeux jaunes les fixer avec méchanceté, méditant toujours quelque vengeance ou parfois seulement quelque mauvaise farce. Portor avait une adversaire avec laquelle il devait bien compter, car la fée Porphyre, elle, était avisée et n'aimait que le contrarier en l'empêchant de mal faire. La fée Porphyre était toujours vêtue d'un très élégant velours pourpre du plus bel effet, dont les plis amples étaient drapés et retenus par des roses de cristal clair. Elle avait aussi un caractère explosif comme un volcan, que même Portor le sorcier redoutait. Or, en ce temps-là, la fée Porphyre avait bien des raisons de se fâcher. Sa filleule, la fille de Portrait Ier et d'Opportune, Porcelaine, dis-je, lui causait d'énormes soucis. En réalité, pour être sincère, si les portemines n'avaient craint de chagriner leurs souverains adorés, ils auraient dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Porcelaine aurait dû être baptisée Porcelaide, tellement elle était répugnante de crasse et repoussante de bêtises. Il faut bien avouer que le surnom de Porcelaide était bien mérité. La pauvre Porcelaine était affreuse. Imaginez la plus fine et la plus blanche des fourrures, salie, embrouillée, mêlée d'herbes et de brindilles, ou caracolait d'époux énormes, ou des araignées, n'ayant même pas besoin de tisser leur toile, étaient tapis, sachant que l'odeur pestilentielle de ce tignon immonde attirait les mouches. Je n'en dis pas plus pour ne pas vous dégoûter, mais vous comprendrez le désespoir du roi Portrait Ier, de la reine Opportune, de tous les portemines, sujets du royaume de Portefeuille, et de la colère de la fée Porphyre. Seul Portor applaudissait Porcelaine. Il la conseillait en mal, l'invitait à la paresse et à la gourmandise, lui donnait des cours d'insolence et de désobéissance. Porcelaine n'écoutait que Portor et c'était la seule victoire de Portor sur la fée Porphyre. Il advint cependant un jour où le roi et la reine se réunirent avec la fée. « La princesse Porcelaine devient trop grande pour qu'on la laisse ainsi. Nous devons agir, » dit Portrait premier. « Fée Porphyre, vous qui êtes la marraine de notre enfant, ne pouvez-vous lui jeter un sort bienveillant pour annuler la magie noire de Portor ?» ajouta Opportune. « Je ne peux rien contre Portor en cette occasion, » répondit la fée. « Par contre, si vous me laissez carte blanche, mais non, vous ne serez pas d'accord. Ce serait un sort qui ne pourrait être brisé. Fée Porphyre, par mon sceptre porte-plume et sous la bénédiction de Porc-Épic, notre dieu, je vous conjure de mettre fin à cette situation insupportable. C'est une supplique de votre roi. « Je crois que vous n'apprécierez pas, » murmura Porphyre, « mais je ne crains aucune colère. » Le roi hocha la tête. Si la fée Porphyre ne craignait aucune colère, c'est que la sienne était toujours la plus forte. « Alors je me mets au travail, » conclut la fée, et de sa baguette magique de cristal blanc, elle endormit tous les sujets, le roi et la reine du royaume de Portefeuille. Tous, sauf Portor, qui résista bien entendu, mais était impuissant, sauf Porcelaine, car cela lui servirait de leçon, et enfin sauf Porte-à-Faux, dont la fée avait besoin. Elle ordonna au sieur Porte-à-Faux, coiffeur de son état, de raser totalement la demoiselle Porcelaine. La princesse furieuse eut beau hurler comme un goret, rien ni personne ne lui vint en aide. Le plus à plaindre dans l'affaire fut le sieur Porte-à-Faux, dont la situation était bien curieuse. Engagé par la fée à tailler dans la toison répugnante, il souffrait moins de la puanteur qui s'en dégageait que de soumettre la demoiselle de son cœur et de ses rêves à un supplice qu'il aurait voulu lui éviter. Mais il ne put résister aux ordres de la fée Porphyre, qui cependant n'ignorait pas les tendres sentiments du sieur Porte-à-Faux pour la jeune princesse. Porte-à-Faux, le cœur brisé, dut accomplir sa rude tâche, alors que Porcelaine hurlait toutes les méchancetés que Portor lui soufflait. C'était tout le soutien que le sorcier pouvait lui procurer. Lorsqu'il eut fini de tailler, le sieur Porte-à-Faux dut baigner, parfumer, pomponner Porcelaine, dont la peau enfin blanche devint lisse et douce comme un coquillage. Cependant, la fureur de la demoiselle ne tarissait pas, et le pauvre Porte-à-Faux, épuisé, malade de chagrin, laissa couler ses larmes. Lorsqu'une goutte tomba sur le front de Porcelaine, ce fut soudain le silence complet. Seul Porte-à-Faux appela « Princesse Porcelaine, Porcelaine, mon amour, au fée Porphyre, je l'ai tuée, elle est morte !» Porte-à-Faux sanglotait, mais la fée le toucha à l'épaule. « Rassure-toi, Porte-à-Faux, elle n'est qu'endormie. Elle le sera tant que... Tu verras bien, je vais réveiller son père et sa mère et tous les sujets, dès que tu l'auras étendue sur ce lit de rose, couleur de l'aurore d'un jour nouveau. Toi, tu feras ce qu'ils te demanderont, même si tu es très fatigué, même si tu n'en as pas envie. » La fée Porphyre fit comme elle avait dit. Tous les porte-mines et leurs souverains sortirent de leur sommeil. Tous, ils vinrent à tour de rôle visiter la pauvre Porcelaine. Tous pensèrent que la fée Porphyre était bien sévère et que la punition était bien dure. Alors tous, sans se consulter, vinrent les uns après les autres voir le sieur Porte-à-Faux et lui demandèrent de les raser comme il avait dû le faire pour Porcelaine. Aucun n'osait se montrer durant ces jours-là, tandis que le malheureux Porte-à-Faux n'en pouvait plus de tailler, pomponner, parfumer. Il en rêvait la nuit, se levait à l'aube, se couchait à minuit, et toujours les clients attendaient à la porte de sa boutique. Cependant, il arriva au bout de sa peine et il alla se coucher épuisé. Ce fut l'instant précis où tous les porte-mines sortirent de chez eux pour aller au château-port de Porridge, où le roi Portrait premier et la reine Opportune se rendirent chez Porcelaine, où la jeune princesse, sur son lit de rose couleur de l'aube d'un jour nouveau, rouvrit ses yeux, où le méchant Portor, l'affreux Portor, libéré, se vengea de sa défaite en jetant sur le pauvre Porte-à-Faux un mauvais sort, celui de dormir jusqu'à ce que la jeune fille de son cœur vienne l'embrasser, ce qui valait la mort, car Portor savait que Porcelaine était trop méchante pour accomplir un seul geste de tendresse. Cependant, au château-port de Porridge, Porcelaine se réveilla de la plus charmante humeur et admira le changement de sa personne ordonné par sa marraine. Elle ne méritait plus du tout le surnom de Porcelaine, et en fin de compte se trouvait même belle. Elle souriait à son image dans le miroir quand elle vit entrer son père, sa mère, puis tous les sujets de portefeuille à leur suite. Quelle ne fut pas sa surprise et son émotion attendrie alors de constater que tous avaient subi le même changement. « Pour toujours lui ressembler » dirent-ils tous en cœur sans se consulter, avec gentillesse. Alors Porcelaine embrassa son père, embrassa sa mère et alla serrer la main de chacun de ses fidèles sujets. Des vivas fusèrent. « Vive la princesse! Vive Porcelaine !» Porcelaine souriait et ajoutait « C'est grâce à ma marraine, la fée Porphyre. Remercions-la !» Le roi Portrait Ier et la reine Opportune pleuraient de bonheur tant Porcelaine ressemblait enfin à l'enfant dont ils avaient rêvé. Cependant, Porcelaine s'aperçut que Portafaux n'était pas venu au château-port. Elle le demanda et tous la suivirent chez le sieur Portafaux. Il paraissait mort, vraiment mort, mort d'épuisement, murmurèrent les porte-mines, désolées, faisant grise mine. Mais la fée Porphyre veillait. Elle souffla dans l'oreille de Porcelaine le secret du sort jeté par Portor. Portor croyait que Porcelaine n'avait perdu que sa tignasse sale, mais il ignorait que les larmes de Portafaux avaient semé l'amour dans le cœur de Porcelaine et qu'elle avait ainsi perdu sa méchanceté et sa bêtise. Il fut bien furieux, mais heureusement impuissant, quand il vit la jeune princesse embrasser alors le sieur Portafaux, qui se réveilla et rougit de timidité et d'émotion. Jamais, malgré l'amour qu'il lui portait, il n'avait osé imaginer recevoir un jour un baiser de Porcelaine. La fée Porphyre mit alors la main de la princesse dans celle du coiffeur de portefeuille sous les acclamations du peuple. Un mois plus tard, tout le royaume en liesse fêtait les noces de Porcelaine et de Portafaux. Ce dernier étant resté rose d'émotion et d'amour, Porcelaine, pour lui ressembler, prit aux roses de son lit leur couleur de l'aube d'un jour nouveau. Quant au roi, à la reine et à tous les porte-mines, ce fut la fée Porphyre qui leur accorda de porter la couleur rose. Pour cela, elle lava le velours pourpre de son manteau dans son lavoir du ciel et des pluies roses colorèrent les porte-mines. Seul Portor resta noir, mais personne ne le plaignit. Enfin, le présent de noces de la fée Porphyre aux jeunes époux fut d'avoir une queue bouclée en signe d'élégance. Porcelaine, devenue coquette, en était très fière. Tous les porte-mines, eux, revendiquèrent l'honneur de voir leur jeune roi Portafaux Ier exercer encore une dernière fois son talent de coiffeur en leur frisant la queue. Depuis ce temps-là, le royaume de Portefeuille n'a plus d'histoire. Depuis ce temps-là aussi, tous les cochons ont la peau rose et la queue en tire-bouchon. Petit lexique. Opportune, qui convient dans un cas déterminé, qui vient à propos. Porcelaine, coquillage univalve luisant et poli, aux couleurs vives, qui présente une ouverture en forme de fente étroite, céramique fine. Porc-épic, petit mammifère rongeur, au corps recouvert de longs piquants, qui vit dans les contrées chaudes. Porphyre, variété d'andésite, roche volcanique rouge foncé, compacte, mêlée de cristaux blancs. Porridge, bouillie ou soupe épaisse de flocons d'avoine. Portafaux, disposition d'une chose hors d'aplomb, situation instable. Portefeuille, carton double pliant et servant à renfermer des papiers. Objet en cuir qui se plie et où l'on range billets de banque, papiers d'identité. Porte-mine, instrument servant à écrire, à dessiner, dans lequel on place des mines de crayon très fines. Porte-plume, tige au bout de laquelle on engage une plume à écrire. Portor, marbre noir veiné de jaune d'or. Portrait, représentation d'une personne réelle, en particulier de son visage, par le dessin, la gravure, la photographie. Ici se termine le conte de Porcelaine de Géode Ham. Illustration musicale de Pascal Krieg, tout droit réservé.